Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h évidemment, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer s'il le faut sur les sujets de santé qui vous préoccupent. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons donner la parole à une femme médecin, le docteur Flora Fischer, qui va nous livrer les secrets d'une profession méconnue, celle de dermatologue. En 20 ans d'exercice, que ce soit à l'hôpital comme dans son cabinet, elle en a vu des patients et des pathologies, des patients qui se mettent souvent à nu devant elle. Il faut dire qu'en dermatologie, il faut souvent passer par là, mais des patients qui se mettent aussi à nu. Dans un cabinet de dermatos, c'est tout l'intime qui se joue. Et c'est ça qu'elle nous racontera cet après-midi. Vous saurez presque tout des coulisses de ce qui se passe derrière les portes de la consultation. Ensuite, aujourd'hui, on vous proposera une petite variante avec notre chronique Les mots du quotidien et la chronique sexo de Catherine Blanc en même temps. Puisqu'on va parler un peu plus longuement du désir, de libido au féminin. Et pour ce faire, nous recevrons un homme dont c'est la spécialité de réveiller la sensualité des femmes. Alexis Méraud sera notre invité et il nous parlera du podcast qu'il a créé. Ça s'appelle tout simplement Le son du désir.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Clémence. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'avais une petite question. Quels sont les risques réellement pour les enfants et aussi pour les bébés en poussette notamment de ne pas porter de lunettes de soleil à la montagne? Parce que c'est vrai que je me disais que les enfants de montagnards, ils ne sont pas tous aveugles et je me demande s'ils doivent porter des lunettes H24. Donc j'aurais bien aimé que vous me répondiez. Je vous remercie d'avance. Bonne émission.
Alors pour vous répondre, Clémence, on s'est tourné vers celle qui avait justement abordé ce sujet il y a quelques semaines dans ce studio. On écoute donc la réponse du professeur Dominique Brémond-Gignac. Elle est chef du service ophtalmologie à l'hôpital Necker Enfants Malades.
Il est très important de protéger les yeux des enfants, en particulier à la montagne où la réverbération est très importante. La question, c'est est-ce qu'elle doit faire porter des lunettes tout le temps? Pas forcément, parce que les lunettes de soleil peuvent être remplacées éventuellement par un petit chapeau, une petite ombrelle, une petite capeline, donc une protection simplement qui vont couper les rayons. C'est très important car à l'intérieur de l'œil, vous avez une lentille, le cristallin, qui est cette lentille transparente. Et chez l'enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, il n'existe quasiment aucune filtration des rayons ultraviolets, alors que ce n'est pas le cas chez l'adulte et chez l'enfant plus âgé. Ça ne va pas induire obligatoirement, bien entendu, une pathologie tout de suite, mais ça peut le faire malheureusement à long terme. Et donc, cette pathologie peut se déclarer beaucoup plus tardivement et on ne la reliera pas forcément à une exposition solaire inadaptée. Donc, très important, protéger les yeux de ses enfants, c'est vraiment très utile.
Voilà, c'était les précisions du professeur Brémond-Gignac au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va passer à une autre question pour vous, celle-ci qui nous a été laissée par Johan, il a 35 ans, écoutons-le.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une petite question pour vous. Quand on fait des points pour recoudre une plaie, certains médecins font des points résorbables et d'autres non, et donc il faut les enlever après. Pourquoi ils ne font pas tous du résorbable au final? Ça serait plus simple, non?
Bah oui, c'est une bonne question Jimmy. Alors c'est quoi d'abord la différence précisément entre des points résorbables et ceux qui ne le sont pas? Alors bon, on comprend un peu dans le mot, hein, résorbable ou pas, mais c'est une différence de matériaux j'imagine.
Alors tout d'abord, il faut rappeler que les sutures existent depuis très longtemps, 3000 avant Jésus-Christ.
Ah oui,
les Égyptiens les utilisaient, on en retrouvait des traces, donc ça veut dire...
Ils aimaient la couture déjà.
Exactement, la couture ou la suture. Les chirurgiens vont être contents d'apprendre qu'on appelle ça de la couture.
Excusez-moi.
Alors c'est vrai qu'il y a une différence de matériaux entre les deux, mais surtout ça va dépendre des propriétés des fils qu'on va utiliser. Ça va varier avec la résistance notamment à la traction, l'élasticité ou le temps nécessaire pour prendre 50% de la résistance. Et donc, entre les résorbables et non résorbables, bien, il y a quelques variations.
D'accord.
Et on va choisir ça en fonction du lieu qu'on va suturer.
Alors, les résorbables, juste pour la petite info pratique, combien de temps ça tient? Parce que bon, ça tombe, ça se résorbe, mais combien de temps? Ça dépend des gens, hein, peut-être.
Classiquement,
hein,
ouais. Les résorbables, vous avez dit les résorbables?
Oui.
Les résorbables, oui. Les résorbables, ils vont partir tout seuls, parce qu'ils sont résorbables, hein, c'est le principe, entre 10 jours à 8 semaines. Et ça va dépendre du site où on va suturer la plaie éventuelle, puisque sur la muqueuse, ça peut être très rapide. Et puis, dans certains organes, ça peut mettre un peu plus de temps, donc jusqu'à 2 mois, ces fils peuvent se tenir.
D'accord. Est-ce qu'il y a des indications particulières à utiliser les uns ou les autres? J'imagine que pour une opération à cœur ouvert, on ne met pas du résorbable, non?
Enfin, alors globalement, dans les muqueuses et à l'intérieur, on aura tendance à mettre du résorbable. Sur la peau, on met du non résorbable, puisque ces fils, lorsqu'on met du résorbable, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait partir tout seul, sur la peau, ça provoque de l'inflammation, une mauvaise cicatrisation. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de retirer les fils au bout de quelques jours. À l'inverse, certains gros vaisseaux doivent être suturés avec un fil qui sera non résorbable, puisqu'on a besoin, comme vous le dites, que ça reste solide. Et parfois, on peut même utiliser des fils de fer, notamment sur un os ou sur une articulation, lorsqu'on a besoin de rendre les choses un peu plus solides.
Bon, là, on s'est contenté de parler de résorbable, non résorbable, mais pour fermer une plaie, pour faire de la couture, mais je m'excuse encore une fois, il y a d'autres solutions. Il y a les agrafes, les cols et même des bandelettes. On en a parlé il y a quelques temps pour les plaies du visage, notamment chez les enfants.
On appelle ça des leucostrips. C'est des espèces de stéristrips, c'est-à-dire des petites bandes comme du scotch en quelque sorte, qui permettent de rapprocher les berges en cas de plaie du visage.
Les berges pour éviter... de la peau. Hein.
Exactement, en cas de plaie du visage, pour permettre d'éviter justement la suture et la meilleure cicatrisation. Et parfois, on utilise de la colle, notamment sur les plaies de doigts, ça marche très bien.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour ces précisions. Alors si vous aussi, comme Johan qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Flora Fischer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste en dermatologie à Paris, mais vous êtes également l'autrice du livre dont on va parler aujourd'hui. Son titre, c'est Confidences d'une dermatologue, paru chez Robert Laffont. Alors justement, vous êtes dermatologue depuis 20 ans, vous exercez ce métier, et le moins qu'on puisse dire, c'est que devant vous, les patients, souvent, ils se mettent complètement nus. Donc là, c'est un peu l'exercice inverse qu'on va faire. C'est vous qui allez vous mettre un petit peu à nu, en tout cas, votre profession, ce que vous avez dans la tête quand vous travaillez. Et donc, dans votre bouquin, vous démarrez par vos premiers pas, un soir de garde à l'hôpital Cochin, qui vous a vraiment conforté dans votre choix. Vous étiez dans la bonne voie. Racontez-nous.
Mais en fait, plus que d'être utile aux autres, plus que d'avoir une profession intéressante, il y a eu aussi ce moment où je me suis aperçue qu'on était gardien des secrets des gens et qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient s'opposer à ce secret et qu'on devenait des confidents absolus. Et ça m'a beaucoup plu.
Ça vous a plu, mais malgré tout, les études de médecine, c'est un parcours semé d'embûches.
Vous le savez, vous aussi,
Jimmy. C'est une vraie galère, on ne va pas mentir. Et vous dites d'ailleurs qu'il faut être un peu fou pour choisir cette voie et que pendant vos études, vous ne voyez pas le monde autour de vous.
Non, c'est vrai qu'il faut parfois il faut pas réfléchir, il faut se lancer dedans et il faut pas. Et nous, on voyait pas en fait les autres professions, on voyait pas les gens qui avaient fait d'autres études et qui commençaient à travailler avant nous et qui gagnaient leur vie. On était toujours tous ensemble.
C'est, on mange médecine, on dort médecine, on
absolument,
vit médecine,
on
étudie
quasiment
médecine,
plus aucun copain ça, qui ouais. faisait autre chose que la médecine, sauf ceux qu'on connaissait en enfance. Et encore, ils nous prenaient pour des fous.
Vous étiez pareil un peu, Jimmy, aussi, ça ?
Oui, non, c'est vrai qu'on est baigné, bercé et entouré que de ça. Et d'ailleurs, quand on continue de faire boire un verre avec des amis, la médecine continue de nous accompagner, en fait, là, en permanence.
Ah oui, on parle beaucoup de médecine. Alors, ça dépend de à qui on s'adresse, mais c'est vrai que... on a toujours une anecdote à raconter. Il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Au fait, je voulais te demander...
» C'est ça. Même les dîners avec les amis d'enfance, ça tourne toujours de « T'as vu mon doigt, j'ai ça ?»
Absolument. Hein,
Jimmy, j'imagine que c'est la même chose pour vous.
Ah oui, c'est comme ça ici à Europe 1 aussi. Hein.
Quand vous arrivez, je dis « Jimmy, on fait cette émission aujourd'hui, mais dis-tu, vous ne veux pas regarder mon coude ?»
Effectivement. Et ce qui vous aide malgré tout à tenir pendant ces années, c'est l'union malgré tout avec vos camarades internes, car vous vivez tout ensemble. On est comme on le dit, 24h/24, c'est... « We live together, we die together », comme diraient certains.
C'est exactement ça. C'est une confraternité qu'on sent vraiment beaucoup à l'hôpital. Et comme on fait tout ensemble, on n'a pas de notion de tristesse, de lassitude. On a des journées qui sont différentes. Et on vit ça tous ensemble, tout le temps.
C'est des études difficiles, la médecine, on le sait, hein, vous le racontez très bien dans votre livre, mais dans lesquelles vous dites aussi, dans ces études, il y a beaucoup d'humour, heureusement d'ailleurs, j'imagine, à l'hôpital. L'histoire de cette blague que vous racontez, que vous avez fait au chef de service des urgences de l'époque, que vous ne citez pas, mais je ne sais pas si lui, il a rigolé.
Non, ça ne l'a pas fait rigoler du tout.
Qu'est-ce
en
que
fait,
vous avez fait
en fait, dans une ferme, on est allé emprunter des poules avec l'accord du fermier et on a laissé les poules en fait tout le week-end parce qu'il n'était pas de garde ce week-end-là. Et on a laissé les poules dans son bureau parce qu'on a trouvé un pass pour...
Mais vous êtes vengé, vous, et puis tous les internes
avant
vous
parce que ça s'était mal passé avec ce chef de service.
Il était très détesté de tous.
Absolument.
C'est ça.
Et quand on laisse des poules...
Donc on peut être étudiant en médecine et faire des blagues de poules.
C'est une blague nulle, mais on était mort de rire.
Non, mais je valide, c'est pas mal. D'ailleurs, dans cet esprit un peu d'humour carabin, d'humour un peu particulier, la première fois que vous êtes rentré dans la salle de garde à Cochin, Vous avez eu d'ailleurs une drôle d'impression. Rappelez pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la salle de garde d'ailleurs.
Les salles de garde, c'est des réfectoires que les directeurs d'hôpitaux allouent aux internes pour déjeuner, pour les gardes, pour les
pour
dîners.
Pour se reposer
de gens qui sont...
ou non, c'est manger essentiellement.
C'est surtout manger, ouais. Oui.
Mais alors ça ressemble à quoi? Pourquoi ça vous a impressionné?
Alors ça ressemble à une... En fait, il y a des fresques qui couvrent tous les murs avec des espèces de BD géantes à caractère pornographique, de toutes les couleurs. Et c'est vrai que c'est particulier la première fois quand on y rentre.
Vous en avez vu des comme ça, Jimmy, vous?
Oui, oui, alors je ne vais pas raconter ce qu'il y a, parce qu'effectivement, c'est obscène et je serais viré de repin.
Je
ne
sais pas si ça se fait toujours ou elles sont restées, c'est vrai que j'en sais rien.
Moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, donc je ne sais pas dans quel état c'est.
Justement, les repeindre, changer, ça fait partie de l'esprit carabin en quelque sorte, même si je peux le comprendre, pour certains, ça puisse choquer.
Ah, il y a des gens qui n'y allaient jamais.
D'accord. Ah oui, parce que choqué, on rentre pas dedans. Oui, c'est vraiment très porno, quoi. D'accord. Il y a un épisode important dans votre vie. Vous avez eu un gros pépin de santé. Vous le racontez dans votre livre en détail. Hein, une urgence absolue, même une expérience qui a fait que vous êtes finalement, vous avez fait une sorte de reset, remise à zéro, mise à jour, parce que vous êtes retrouvé de l'autre côté du brancard.
C'est exactement
et
ça.
Ça vous a fait du bien. Vous pensez, enfin, vous a fait du bien. L'histoire était grave, mais cette remise à zéro, c'était important.
Sur le moment, ça. En fait, moi, je suis arrivée aux urgences en coma vigile. Donc, en fait, j'entendais.
Vous aviez une péritonite, hein, donc
voilà.
Une,
j'étais en septicémie et j'entendais en fait tout ce qui se passait, mais je pouvais répondre que par un grognement. Donc j'entendais vraiment et je voyais les gens s'activer autour de moi, parler de moi comme si j'étais pas là. Et je voyais l'angoisse des gens vis-à-vis de ma maladie et puis ensuite l'hospitalisation. Parce que l'hospitalisation, ça veut dire la visite. Avec le chef de service qui dit qu'est-ce qu'elle a, elle, alors que je suis là, et qui peut s'adresser directement à moi.
Ça vous a fait du bien, peut-être vous n'êtes pas le même médecin grâce à cette histoire, je crois.
Ah oui, tout à fait.
Parce que ça aborde beaucoup d'humanité, finalement.
Ça a tout recommencé, oui. Là, j'étais plus du tout un médecin.
Par contre, comment on peut en arriver là quand on est médecin? Parce que vous expliquez que vous êtes arrivé quand même en coma, vigile.
Oui.
C'est quand même très, très grave. Vous avez failli mourir.
Mais en fait, ça s'est passé très vite.
Vous deviez avoir mal depuis quelques temps.
Mais non, pas du tout.
Comment
non, pas du tout. La collection ABCD s'est faite très rapidement et j'avais jamais eu mal au ventre jusqu'à quelques heures avant. Incroyable. Et en fait, j'ai mal aiguillé le médecin d'SOS Médecin qui est venu m'examiner. J'ai dit, je dois avoir une gastro.
C'était
parce
pas vous,
que j'ai
Jimmy,
vraiment.
Non, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup les douleurs abdominales. C'est un motif qui angoisse souvent
c'est
les médecins
très
parce
dur.
Que c'est assez bâtard en quelque sorte. Vous avez fini par être dermatologue. Pourquoi ce choix et comment c'était vu à l'époque d'ailleurs d'être dermatologue? Alors, c'est pas si vieux que ça, mais parfois on peut se dire,
pas
la dermatologie, c'est un truc un peu.
C'est un truc un peu. Soit c'est un truc dégoûtant. Soit, mais est-ce que tu as vraiment fait des études de médecine?
Est-ce que tu n'es pas un peu esthéticienne, quoi? C'est
voilà,
ça qu'on disait à l'époque.
On parle beaucoup de l'esthétique ou du côté dégoûtant.
Donc, ce n'était pas la spécialité la préférée des
pourtant,
des
c'est une spécialité
quoi.
Qui reste bien classée à l'internat, parce que ceux qui la font sont contents de faire cette spécialité, mais vu de l'extérieur,
et
c'est
pourquoi
pas
vous l'avez choisi
toujours,
vous
parce que je trouvais que c'était une spécialité qui regroupait plein de choses, de la pathologie courante à la pathologie très grave, la cancérologie, jusqu'à des atteintes, d'autres types d'atteintes. Enfin, il y a vraiment, c'est une spécialité qui est vraiment très, très variée. Et c'est ça qui m'a plu.
Docteur Fischer, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée en studio avec nous toujours, c'est vous, docteur Flora Fischer. Vous êtes médecin dermatologue et l'autrice du livre dont on parle aujourd'hui, Les confidences d'une dermatologue, paru chez Robert Laffont. Alors l'internat, le clinique a terminé, on a parlé un petit peu de vos études tout à l'heure. Vous choisissez finalement donc d'ouvrir votre cabinet libéral. Et là, c'est l'ouverture de ce cabinet. C'est à la fois un soulagement, quitter l'hôpital public, pas facile, c'était aussi une grosse angoisse finalement de vous retrouver toute seule finalement face à vos patients quoi.
Alors quitter l'hôpital, ça a été à la fois un soulagement parce que je voyais bien que l'hôpital public ça commençait à devenir de plus en plus difficile et
ça s'est pas très
et ça s'est
pas vraiment
du tout arrangé. Maintenant quand j'y retourne, ça s'est vraiment pas arrangé, ça veut dire que c'est de pire en pire en fait. Et donc je trouvais que c'était par certains aspects assez lourds, mais par contre, par d'autres aspects, c'était bien, dans la mesure où vous êtes dans une équipe et vous pouvez aller demander conseil à quelqu'un et vous pouvez toujours aller trouver
donc,
quelqu'un.
D'où l'angoisse à l'ouverture du cabinet quand
ah,
on
tout
est
à fait,
tout seul.
Parce que là,
quoi.
On est seul, et vous prenez vos propres décisions, vous
et
pouvez
vous
toujours être
seul,
aidé, voilà,
tout
à fait. Et vous êtes seul à donner le diagnostic, seul avec les paires d'yeux face à vous qui vous posent des questions et vous ne pouvez déléguer à personne. Ni à une infirmière pour qu'elle vous aide à faire des soins, ni à votre chef de service pour qu'il vienne annoncer le diagnostic à votre place.
Et même dans les tâches administratives du quotidien, on fait face à des demandes et le médecin, il est à la fois un peu comptable, un peu assistante sociale, un peu médecin, parfois c'est un ami. Donc c'est vrai qu'on a une double casquette, triple casquette. Et c'est vrai que quand on est en libéral, bah, on se retrouve un peu seul au départ, monde, ça peut être angoissant. Ouais. Et vous écrivez à propos de la notion de pudeur est très importante, en particulier en dermatologie, et que ça ne concerne pas simplement que les parties intimes.
Oui, parce qu'en fait, il y a le côté corps, c'est-à-dire que normalement, en dermatologie, si on veut vraiment examiner quelqu'un, il faudrait examiner toute la peau, il faudrait examiner les muqueuses.
Moi, on m'a toujours dit, si un dermato, il ne te met pas à poil, hein, de la tête aux pieds, c'est que ce n'est pas un bon dermato. On m'a déjà dit ça, je ne sais pas si c'est vrai.
Alors, oui, mais c'est quand même difficile de dire à quelqu'un, mettez-vous nu et j'arrive tout de suite. Donc, en fait, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire, au départ, les gens se mettent en sous-vêtements et après, seulement à la fin, on leur explique pourquoi il est nécessaire de voir les fesses, de voir
c'est
les
ça,
pieds.
C'est ça, il faut regarder dans l'arrêt des fesses. Il peut y avoir des petits cancers de la peau qui se logent là. Donc, il faut tout regarder, les parties intimes, sous les testicules. Enfin, c'est ça. Donc, éventuellement, vous les mettez tout nus, les patients. Et vous dites justement que les femmes, souvent, sont moins ennuyées que les hommes dans votre cabinet face à cette nudité, finalement. Pourquoi on est blindé? Peut-être parce qu'on a l'habitude d'aller chez le gynéco.
Alors,
déjà,
d'abord, parce que je suis une femme aussi. Ouais, et ça. Aussi parce que, effectivement, les femmes ont l'habitude.
Les femmes,
de vous montrer leur intimité.
Mettez-vous toutes nues, elles le font. Les garçons, ils font quoi du coup?
Les garçons, ils sont étonnés, ils disent pourquoi faire? Et ben parce que je voudrais voir votre peau à vous aussi et toute la peau. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Ils ont beaucoup moins l'habitude.
Et justement, dans le cabinet, vous avez une zone qui est prévue justement pour le déshabillage. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où on retire ses vêtements? Et vous faites quoi justement pour ne pas brusquer les patients? Puisque effectivement, désormais, on a un rapport au corps assez particulier. Et j'ai l'impression que c'est plus la même époque où on déshabillait à tout va, un peu pour un ou pour un non, même les enfants assez facilement. Là, on prend beaucoup de pincettes, beaucoup de précautions. Je ne sais pas si on est dans le juste ou pas, mais comment ça se passe?
Alors oui, en fait, ça fait un peu partie de la notion d'accord, la notion de consentement. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin de se déshabiller. C'est pour ça que moi, j'ai un espèce de paravent entre le bureau et la zone de déshabillage. Pas parce que les gens peuvent nous voir de dehors, mais parce que... ils ont compris que s'ils passaient dans une autre zone, c'était là où il fallait se déshabiller. Et je ne veux pas rester à côté d'eux, parce que je peux aussi dans mon cabinet, je ne veux pas rester à côté d'eux pendant qu'ils se déshabilleront. Contrairement à ce qu'on faisait à l'hôpital, moi j'ai des copines qui sont restées à l'hôpital qui me disent « Eh ben moi, je reste à côté du patient pour qu'il se déshabille plus vite parce que j'ai trop de retard, etc. » Et moi, j'essaye de ne pas
prendre
le faire.
Temps et
voilà, j'essaye de leur
zone,
dire, je vous laisse vous déshabiller, j'arrive.
Et d'expliquer les choses aussi, parce que notamment, vous parlez dans le bouquin d'une anecdote avec une patiente obèse qui ne comprend pas pourquoi il faut enlever son soutien-gorge. Et en fait, quand on explique, ça passe mieux, quoi, c'est ça.
Voilà, et c'est elle qui m'a donné cette expression que j'aime bien, qui est « Ah, je croyais que j'allais me déshabiller sans raison ». Et en fait, une fois qu'elle a compris le but du déshabillage, c'est passé beaucoup mieux.
Alors la dermatologie, c'est une spécialité où le médecin est amené à utiliser presque tous ses sens. La vue, on peut le comprendre, le toucher aussi, mais aussi l'odorat, c'est un peu moins sexy, mais même l'ouïe, vous pouvez nous expliquer?
Oui, je ne comprends pas le rapport avec la peau.
Alors l'odorat, parce qu'il y a certains agents infectieux, certaines bactéries, notamment je pense au piocyanique, qui ont une odeur qui est absolument caractéristique.
Le diagnostic, vous le faites au nez, quoi, presque.
Bah, quasiment. Ouais, hein, quand vous rentrez dans la chambre du malade et qu'il y a un ulcère de jambe.
J'imagine. Ça sent le pio. C'est ce qu'on disait à l'hôpital, ça sent le pio dans
voilà,
sa chambre.
C'est une espèce d'un truc un peu verdâtre. Et vraiment, ça sent une odeur à côté de laquelle vous ne pouvez plus passer à côté. D'accord. Une fois que vous
mais
la
Louis,
connaissez.
Mais Louis, ça veut dire quoi? On écoute
et
la
alors,
peau
ouais. Et alors Louis, c'est aussi quand on a notamment une infection par des bactéries anaérobies. Et ça, quand on touche la peau, elle crépite comme s'il y avait un espèce de gaz dessous. D'accord. Bon, c'est pas fréquent. Hein. Là, c'est que ça va assez mal quand
bon,
on en
tous
arrive
les,
là.
Tous les sens utilisés, en tout cas.
Alors, on parlait de la pudeur. Il y a la dermatologie. On comprend bien qu'on est confronté notamment aux parties intimes. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la vénérologie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est aussi? Puisque c'est un autre aspect, la dermatologie.
Moins connu, hein, de la dermatologie. On a l'impression que la dermatologie, c'est les boutons, l'acné, mais non.
Et ben, en fait, au départ, la dermatologie, c'était beaucoup la syphilographie, c'est-à-dire la syphilis, c'est les maladies vénériennes. Donc, l'étude des maladies vénériennes est complètement intégrée à la dermatologie. Donc, les maladies vénériennes, c'est tout ce qui est infection
sexuelle. Donc, il
ne
faut pas que les patients hésitent si on a les testicules qui grattent, le pénis qui coule, ben la vulve
voilà,
qui grattent.
C'est
chez vous,
absolument,
hein, c'est ça. Faut pas hésiter, parce que les gens ne le savent pas forcément. Donc, c'est
non,
pas
je
du
sais,
tout
je sais,
faire
ils
de
pensent que c'est un problème
hein,
de veine, mais en fait, ouais. Non, c'est un problème de maladie vénérienne.
Très bien. Mais pour tous ces problèmes-là, c'est chez le dermato. Docteur Fischer, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Retour dans Sans Rendez-vous avec Cyclamed, qui valorise les médicaments non utilisés rapportés en pharmacie.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Flora Fischer. Vous êtes médecin dermatologue et l'autrice du livre Confidence d'une dermatologue paru chez Robert Laffont. Alors dans votre livre, il y a un chapitre qui est intitulé, parce que c'est ça aussi la dermatologie, la galerie des odeurs, des horreurs dermatologiques. Et d'ailleurs, même dans votre vie perso, dans vos repas de famille, on vous demande souvent c'est quoi le truc le plus dégueu que tu aies pu voir? Bon, moi je vous la pose aussi du coup. La question, c'est quoi le truc le plus dégueu que vous ayez pu voir?
Oui, c'est le côté voyeurisme des gens.
Ça dégoûte les gens, mais voilà, ça les intéresse.
Ils ont envie de demander, et finalement, quand ils ont la réponse, ils disent « Oh là là, c'est horrible !»
J'aurais mieux fait pas poser la question. Bon, dites-nous quand même.
En fait, les choses les plus dégoûtantes, moi, que je trouve, c'est tout ce qui est bestiole, tout ce qui est macroscopique,
en fait.
D'accord
avec vous, voilà. J'en ai pas vu, mais ça me va très bien.
Voilà, parce que l'idée de la gale, c'est...
des œufs sous la peau, là.
Mais oui, mais ça, au moins, on les voit pas, c'est microscopique. Mais tout ce qui est de tous les morpions, types de poux, voilà, c'est terrible.
Bon, c'est pas l'heure du déjeuner, mais on a un autre exemple dans votre galerie des horreurs. C'est un cas de myase furoncoloïde. C'est quoi ce truc?
Voilà, ça, j'en ai vu qu'une seule fois. En fait, c'est un type d'araignée qu'on trouve souvent en Afrique noire, qui pond ses œufs en fait à même la peau, et les patients se plaignent d'un abcès. Mmh. Et franchement, quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est juste un abcès. Et c'est au moment où on
ouvre le truc,
on évacue l'abcès, qu'on se rend compte qu'il y a des petites larves qui sortent.
Plein de petits vers. Bon, c'est vraiment dégoûtant. Jimmy, à vous.
Effectivement, j'ai le souvenir comme ça d'un
patient.
Vous
avez vu des trucs dégueux, je suis sûr.
Ça m'avait vraiment traumatisé, qui s'était injecté en fait de la drogue dans une veine, mais la veine du pénis. Et en fait, ça avait entraîné un espèce de cratère au niveau de sa verge. D'accord. Et donc, il avait l'équivalent d'une pièce de 2 euros qui formait un trou dans son zizi. Et donc, il l'appelait pour savoir quoi faire.
Jimmy, allez, question suivante.
Donc, il avait un ulcère. Donc, franchement, il avait mal et il avait de quoi avoir mal.
Oui, j'imagine.
Et justement, on parle souvent des trucs un peu crades, comme ça, des trucs un peu graves qu'on peut voir à l'hôpital. Et on pense que certaines choses plus tranquilles, comme les poux, ça peut être plus facilement.
On les aime pas, mais c'est pas grave, on se dit.
C'est
les
pas
poux.
Très grave. Ouais. Mais malgré tout, vous racontez justement que ça peut virer au cauchemar, notamment le cas de cette petite fille de 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
C'était une petite fille en fait. Parfois on ne fait pas le diagnostic de poux, qui est un diagnostic qui paraît simple, mais c'est pas si facile. Sur certains cheveux, on voit pas les poux, on voit pas bien les lentes, et on se dit non, ça doit pas être ça. Et finalement, parfois,
et on laisse proliférer. Voilà,
l'infestation dure très longtemps. Et elle va jusqu'à gagner les sourcils et les cils. Et moi, j'ai déjà vu des lentes dans des cils.
Avec une petite fille qui avait donc qui desquamait de partout.
Voilà,
à cause
et puis ça grouillait au niveau de la tête. Et
ça grouillait, donc les poux, on les aimait pas, on les aime encore moins. Donc il y a les trucs dégoûtants en dermato. On va passer aux trucs un peu plus sympas, parce que c'est aussi la médecine de la beauté, pour le coup, la dermatologie. Attention, c'est pas toujours superficiel, vous dites dans votre livre, parce que notre apparence, finalement, elle peut aussi refléter finalement notre état de santé général, comme cet enseignant qui vient vous voir à un moment donné dans votre cabinet, avec des plaques au front et aux sourcils, mais des plaques qui ne sortent pas toute l'année.
Oui, alors en fait, ça, c'est souvent ce qu'on appelle une dermite séborique. C'est un espèce de petit champignon qu'on a à l'état naturel, c'est un portage chronique. Et ce champignon, entre guillemets, ressort essentiellement quand on est stressé. Et ça donne des plaques au niveau des ailes du nez.
Donc lui, c'était septembre-juin, pendant toute l'année scolaire.
Absolument, c'était
pendant
l'année scolaire. Après, les vacances, ça va mieux souvent. On a moins de pellicules.
Donc là, finalement, un problème de peau qui reflète un état de stress général du patient.
Et ça arrive beaucoup quand même avec...
Si on prend cet exemple de dermite séborique, qui n'est pas une pathologie très grave, mais vous dites, c'est surtout le regard des autres qui fait qu'elles sont plus ou moins bien vécues. Et donc ça veut dire qu'une simple dermite séborique, pour quelqu'un, ça peut être vécu comme un enfer.
Ah oui, tout à fait. En fait, en dermatologie, il y a des dermatoses qui sont parfois très affichantes. Et quand on les voit, on se dit, oh là là, celui-là, il doit être contagieux, il doit avoir un problème très grave, je change de trottoir parce que c'est vraiment horrible.
Et vous dites
alors que c'est pas toujours le cas.
C'est ça. Non, les patients viennent vous voir en vous demandant parfois, justement dans cet aspect, on va dire esthétique de votre métier, docteur, il y a une femme comme ça qui s'est pointée dans votre cabinet qui vous dit, docteur, en pointant son visage du doigt, dites-moi surtout ce que vous pouvez faire pour moi. Mais alors, vous répondez quoi là?
Oui, moi, en fait, je préfère pas répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire, je préfère détourner la question.
Qu'est-ce que vous pouvez m'injecter? Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter? C'est ça qu'elle voulait savoir.
J'aime pas que les gens demandent
qu'est-ce
que je pourrais faire. Je préfère qu'ils me disent ce qui les gêne.
Donc, par exemple,
et ce qui a changé par rapport à quand ils avaient 25 ans, qu'ils ne supportent plus. Mais j'aime pas qu'on dise, faites-moi le bilan, dites-moi ce que je pourrais faire. Parce que
vous considérez
pas tous gênés par les mêmes choses.
Vous n'avez pas votre avis à donner là-dessus, c'est ça?
C'est pas un avis, c'est je fais et j'oriente les gens vers ce qu'on peut faire. Mais pas, je donne pas mon avis sur le physique des gens.
Et justement, la dermatologie, c'est aussi de l'esthétique. Oui. Mais vous dites que vous avez l'impression de voir des patientes de plus en plus jeunes venir vous voir pour essayer de changer quelque chose. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ?
Alors ça, je ne sais pas, mais effectivement, les chirurgiens esthétiques le disent aussi, le recours à la chirurgie arrive de plus en plus jeune.
Quel
parce que je pense, mais même 20, 25 ans, parce qu'avec les réseaux sociaux, Instagram, les Photoshop, je pense que c'est quand même beaucoup les réseaux sociaux.
Et elles arrivent quoi avec des photos d'elles retouchées, même en vous entrant, voilà.
Alors voilà, des photos d'elles retouchées, ça, ouais. Des photos
je dis elles, parce que
c'est surtout des jeunes filles. De stars de télé-réalité, ouais. des photos de mannequins et... Elles veulent tout ça tout de suite, quoi.
Il y a un autre sujet que vous abordez dans votre livre, c'est celui d'être une femme en médecine, finalement. Même si vous avez commencé vos études, donc bon, il y a un certain nombre d'années, mais à une époque où déjà il y avait finalement autant de femmes que d'hommes sur les bancs de la fac. Est-ce que vous diriez
il y a plus de femmes.
Oui, même maintenant ça a dépassé. Mais à votre époque, en tout cas, c'était déjà égalité. Est-ce que vous diriez que la médecine, malgré tout, elle est sexiste? Elle était sexiste à cette époque. Est-ce qu'elle l'est toujours?
Je ne sais pas si la médecine est ou était sexiste, mais il y a des médecins qui sont sexistes parce que la médecine, elle ne protège pas des travers de la société. Et donc, il y a des médecins sexistes.
Vous en avez souffert pendant vos études, vous, plus que les garçons, vous avez l'impression, par exemple, ou
pas ?
Moi,
je n'en ai pas tellement souffert, mais il y a eu certaines réflexions, peut-être, dont je ne me suis pas rendu compte à l'époque, parce que maintenant, on n'a pas le même regard qu'on avait à l'époque.
Depuis, voilà, c'est ça.
On en parle beaucoup plus et c'est vrai qu'il y a des remarques que je ne supporterai plus maintenant.
Avec les yeux d'aujourd'hui, vous les voyez plus de la même façon.
Je pense qu'il y a du sexisme en médecine, comme il peut y en avoir un peu dans tout un métier. Et d'ailleurs, parfois même, je suppose, du côté des patients, lorsqu'ils ont affaire à une femme médecin, parfois demande quand est-ce que je verrai le docteur.
Absolument.
Parce que ah, vous êtes l'infirmière, vous êtes l'assistante, alors que non, vous êtes le docteur.
Pour vous,
aussi.
Quand on vient vous voir dans votre cabinet, quand même, on ne vous dit pas où est le docteur, non, j'imagine.
Mais non, un peu moins, parce que là, c'est le privilège de l'âge aussi. Mais oui, oui, non, c'est arrivé.
Alors, vous dites aussi que vous parlez aussi de ce que disent les médecins, par exemple, en onco-dermatologie. Vous avez appris qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais qu'en même temps, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il faut dire la vérité en médecine, mais qu'on n'est pas obligé de la dire de manière brutale.
Par exemple ?
L'annonce d'un cancer, on est obligé d'en passer par là, mais on n'est pas obligé de dire « Alors, vous avez un cancer, alors on va faire ça, 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 ça et ça et... » Alors que de toute façon, le patient qui a déjà eu le diagnostic en pleine figure ne pourra pas écouter la suite de la phrase. Donc, on commence par le diagnostic et il faut une certaine phase de digestion.
C'est-à-dire, en pratique, ça veut dire quoi ? Vous dites quoi à un patient ? Vous voyez une tache sur la peau, un peu noire, on va dire, et vous lui dites
quoi ? Une fois que j'ai fait le diagnostic, alors d'abord, j'explique qu'il faut faire un prélèvement. J'appelle ça un prélèvement alors que c'est une biopsie, parce que le terme biopsie n'est pas un très bon terme. Et un terme qui est
vraiment très angoissant. Ça peut faire peur aux patients,
bien sûr. Angoissant. Et après, en fait, quand je dois donner un diagnostic, je donne le diagnostic et j'essaye d'aller un peu dans la réactivité. Vous avez ça, mais attention, on va faire ça, ça, ça et ça. Et après, j'attends la consultation d'après pour pouvoir dire plus de choses.
D'accord. Vous parlez aussi de ces attitudes inutiles chez certains médecins, le bashing notamment entre confrères, inutile mais très fréquent quand même. Hein. Comment on devrait réagir, nous, face à des médecins? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé en consultation d'entendre « Oh, celui-là, il vous a prescrit ça ah, !» ben, heureusement que vous êtes tombé sur moi maintenant. Hein. C'est assez fréquent. Hein.
C'est incroyable.
Vous vous hochez de la tête, hein, Jimmy.
C'est... Oui, c'est triste. Moi,
beaucoup de médecins font ça quand même.
Oui, c'est vrai que c'est la... Enfin, je laisse répondre, mais c'est pas confraternel et d'une et deux. On est toujours l'idiot de quelqu'un, donc un jour ça me tombera dessus, donc un jour je ferai aussi une erreur et j'aimerais que le docteur qui soit en face ne me descende pas pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on va se dédouaner de sa responsabilité, mais critiquer aussi facilement un confrère alors que souvent on n'a pas vu le patient au même moment et
exactement.
C'est toujours plus facile
on
de faire...
On ne connaît pas l'histoire.
Vous ne le faites jamais vraiment, vous
de critiquer
de bâcher les autres
de critiquer devant un patient ouais. Ah non, jamais.
C'est un
truc
que vous interdisez absolument.
Ah oui, je m'interdis et je ne réponds pas quand les patients disent « j'ai vu monsieur machin ». Vous êtes d'accord avec moi, il est vraiment nul.
Et comment on doit réagir, nous, patients, alors? Parce que ça nous arrive parfois de tomber sur un médecin qui nous dit « Vous inquiétez pas, maintenant, vous êtes entre les mains du meilleur. » Parce qu'il y a aussi l'ego de certains médecins.
Oui, bon,
on devrait fuir.
Je suis un expert.
Voilà, mais on devrait fuir, nous, à la fois. Moi, je suis contente d'entendre un médecin qui me dit « Moi, je suis le meilleur. Je préfère être avec le meilleur qu'avec le moins bon. » Mais bon.
Mais c'est pas parce qu'il dit que c'est le meilleur que c'est vraiment le cas. Et le contraire non plus. C'est-à-dire, il peut avoir une hypertrophie du moi et être vraiment bon comme le contraire. Mais moi, je n'aime pas trop cette attitude.
Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, ça n'empêche que si jamais il y a un problème, nous, entre confrères, on ne va pas hésiter à appeler le médecin et discuter entre nous. Et je pense que l'attitude que vous décrivez, qui consiste à ne pas critiquer en face du patient, est celle qu'on doit tous adopter.
Très bien. Merci beaucoup, Dr Fischer, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Grâce à vous, on n'en sait plus sur cette profession finalement assez méconnue. Je rappelle le titre de votre livre, Confidence d'une dermatologue, paru chez Robert Laffont. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé et Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours. De 15h à 16h, nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et donc, nous sommes rejoints à l'instant, un petit peu plus tôt que d'habitude, par Catherine Blanc déjà, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, ainsi que notre invité, c'est vous, Alexis Himéros. Bonjour, bonjour à tous les deux, hein, en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai dit bonjour Catherine, bonjour à tous les deux. Alexis, vous avez créé un podcast qui s'appelle Le Son du Désir. C'est quoi en deux mots ce podcast ?
C'est un podcast érotique dont l'idée, c'est la suivante. C'est votre amant qui vous laisse un message sur une boîte sonore. Et de cet amant, vous ne connaissez que la voix, mais il va vous entraîner dans un monde onirique, sensuel, vous faire découvrir des fantasmes, le désir.
Mais on va en écouter justement pour se faire une meilleure idée. Un petit extrait tout de suite.
Allô ma chérie, je n'arrête pas de penser à toi depuis des jours, le matin comme le soir. Tu me manques. Mon corps ne cesse d'appeler le tien. Tes yeux, c'est par eux que l'ensorcellement a surgi. Je suis tombé fou de ta bouche, comme tu es belle.
Alors comment vous est venue l'idée de je sais pas, on se lève pas le matin en se disant un jour, tiens, je vais créer des podcasts érotiques pour femmes, ça on verra après, mais c'est venu, je crois, d'une discussion entre amis, c'est ça ?
Oui, il y a deux choses, c'est-à-dire déjà il y a le fait que déjà j'ai eu beaucoup de relations à distance et je me suis aperçu que le son, le téléphone, c'était une façon formidable de créer une intimité charnelle très précieuse. Et puis j'avais me resté dans la tête. Et puis un jour, lors d'une discussion entre amis au sujet du féminisme et de tout ce qu'il y avait comme mouvement féministe en 2019, je me suis dit qu'il fallait vraiment prendre part à l'action. C'est-à-dire, en tant qu'homme, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis je voyais ce qui se passait sur les plateformes de pornographiques qu'on peut voir en vidéo. Et je me suis dit, c'est avilissant, c'est dégradant, donc peut-être qu'on peut proposer quelque chose de plus...
Plus classe.
Ouais. Hein, justement, voilà, alors vous avez une voix absolument incroyable.
Même Jimmy, il est un peu
titillé. Je l'ai vu dans vos yeux, Jimmy.
C'est vrai, vous avez une voix absolument
J'adore
incroyable.
J'adore l'extrait qu'on vient d'entendre, est très
chouette.
Et
d'ailleurs, justement, vous dites que c'est finalement peut-être une alternative aux sites pornographiques pour les femmes qui pourraient se sentir mal à l'aise sur ces sites et qui peut-être être un peu plus libérées avec votre voix, notamment.
Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent se sentir mal à l'aise. C'est-à-dire que les plateformes vidéo pornographiques, il y a le contenu, il y a le contenant. C'est-à-dire qu'on va vous appeler à vous faire élargir votre pénis si vous êtes un homme qui regarde ces vidéos en publicité. Et puis le contenu est dégradant. C'est une image. Enfin, la femme n'est pas mise en valeur.
Catherine Blanc, comment une voix peut redonner du désir comme ça ? Je ne sais pas ce que vous pensez de ce podcast, vous allez nous le dire, enfin en tout cas l'extrait qu'on a entendu il y a un instant. Comment un son juste peut exciter ? Justement, il n'y a pas d'image là. Hein.
Justement parce qu'il n'y a pas d'image, parce que l'image, elle est bloquante, parce qu'elle offre un imaginaire limité à ce qui est proposé et qui est du coup subi. Alors que la voix, elle permet la rêverie. C'est la différence qu'il y a pareil avec un film par rapport à un livre. La liberté de pouvoir construire quelque chose et d'y mettre nos propres situations, nos propres émotions, nos propres visages, tout ce qui a bercé et fait grandir notre propre érotisme. D'où l'importance d'une voix offerte qui raconte des choses à la fois assez classiques, mais portées par une voix caressante et qui permet justement d'y voir des corps caressants ou des corps qui puissent être caressés.
Et puis avec cette voix, on peut aussi peut-être un peu plus s'identifier, notamment avec le son. Ça peut décupler peut-être des sensations particulières, je ne sais pas.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast parce qu'elles ont envie de découvrir de nouvelles choses ou peut-être de se réapproprier leur sexualité, se réapproprier leur corps puis, ou imaginer découvrir d'autres corps.
C'est que pour les femmes, ce podcast, ou c'est finalement tout n'importe qui peut l'écouter
N'importe qui accepte de se faire appeler « ma chérie » peut écouter ce podcast. Et on a quand même 20% des auditeurs, donc qui sont des hommes, 20% d'abonnés qui sont des hommes, et ça c'est génial, c'est une super fierté finalement, parce qu'on parle beaucoup de gender fluide, mais ça passe aussi par ça, par le fantasme.
Très bien Alexis, vous restez bien sûr avec nous, on va poursuivre dans quelques minutes. De retour sur Europe 1 pour la partie sexo de l'émission, toujours en compagnie de Catherine Blanc, notre sexologue, et puis notre invité, Alexis Méros. Vous êtes le créateur du podcast Le Son du Désir, un podcast érotique dont on va justement écouter un deuxième extrait.
Je m'assieds contre toi et nos lèvres se rejoignent. Tu me grimpes dessus, tu t'approches de ma bouche et tu me ligotes avec cette cravate en soie. Et tu commences à déboutonner ma chemise pour avoir accès à mon torse. J'aime t'avoir à califourchon au-dessus de moi. Et c'est curieusement très excitant d'avoir les mains attachées pendant que tu me caresses la poitrine.
Bon, on l'entend, Alexis, Jimmy, vous avez encore aimé cet extrait, je le vois. Alors, c'est pas du tout, c'était, on l'a écouté, on entend bien sûr que c'est érotique, mais c'est pas trash, c'est pas porno, on sent de la bienveillance, comme quoi, en fait, il n'y a pas besoin d'être non plus très vulgaire pour exciter, finalement, hein.
Non, et puis finalement, effectivement, il y a autant de d'évolution du désir qu'il y a de personnes, mais on voit très bien que finalement, si on prend son temps, on peut emmener la personne ailleurs, dans quelque chose de plus fort au niveau du désir et plus fort au niveau du plaisir.
Et d'ailleurs, Alexis, vous portez un masque, pour ceux qui nous regardent notamment sur Internet. Pourquoi est-ce que vous êtes masqué? C'est pour pas que vos voisins ou votre voisine vous reconnaissent ou peut-être il y a une autre raison derrière ça?
Non, j'ai rien, pas de problème avec la voisine, mais en fait, c'est surtout que...
Elle est abonnée au podcast, de toute
oui,
façon,
sûrement. C'est une voix, et le but, c'est vraiment de cet amant sans visage, de pouvoir y coller le corps de vos rêves, le visage de vos rêves sur cette voix, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux.
Catherine, vous recommanderiez ce genre de podcast, ce podcast en particulier, à vos patientes, par exemple, en mal de libido, en...
Oui, d'abord, liberté, liberté chérie, moi je ne fais pas de prescription bien évidemment, mais ce que je trouve intéressant c'est de dire, de donner l'occasion d'expérimenter la liberté que l'on a ou pas justement, dans le cas thérapeutique hein, je parle là, de justement se laisser aller à son imaginaire et peut-être observer quand est-ce qu'on bloque malgré tout, est-ce qu'on y voit une infidélité ou est-ce qu'on y voit une liberté de pouvoir projeter des choses, projeter des possibles. Et ce que je trouve intéressant tout à l'heure quand il était question de, vous parliez de vulgarité et qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à la vulgarité pour que ce soit érotique, pour que ce soit sexuel, pour être excité. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on est dans quelque chose d'extrêmement vulgaire, on est dans quelque chose de la rapidité, on essaie d'éveiller l'animalité. Mais du coup, il y a peu de construction.
Dans alors ce podcast, on est plutôt dans la lenteur.
On est vraiment, dans le slow sex. Ouais. Et donc, dans ce slow sex, on se donne la liberté de prendre une place vraiment dans la construction érotique et à venir dans la sexualité elle-même.
Et justement, Alexis, vous puisez où toutes ces histoires?
Est-ce que là, il est curieux, Jimmy, il voudrait savoir, en fait, surtout.
Est-ce que vous avez
tout vécu? Est-ce que c'est votre expérience personnelle, hein, c'est ça? Question de mec à mec, quoi.
Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'histoires qui sont inspirées de ma vie personnelle. Je pioche également parmi les personnes qui peuvent m'envoyer des messages, qui me racontent certaines de leurs aventures. Je pioche dans ces petits bouts d'histoire de chacun. C'est à la fois un travail d'imagination et puis...
C'est un travail d'écriture.
Et un travail d'écriture.
Ils ne durent pas très longtemps, vos podcasts. En plus, je crois que c'est 15 minutes en moyenne. Catherine, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin non plus d'un péplum pour jouir, pour avoir du plaisir, pour se faire érotiser un moment, c'est ça? C'est
absolument. Ce qui d'ailleurs est un bon message à transmettre à certains messieurs inquiets à l'idée de devoir faire
des
marathons du sexe parce qu'une femme, ça met du temps à jouir. Et en fait, ce n'est pas tellement que ça met du temps. C'est est-ce qu'il y a un contexte? Et le contexte n'a pas besoin de beaucoup de temps. Et c'est la qualité du contexte, je trouve, que vous proposez, Alexis.
Merci. Et Alexis, un mot sur le prix. Où est-ce qu'on trouve ces podcasts, pour ceux qui seraient intéressés? Et justement, combien ça coûte?
C'est un podcast indépendant, il est disponible sur abonnement à 4,99€ tous les mois. Ça se retrouve sur lesondudésir.fr.
Combien, pardon, excusez-moi, je n'ai pas suivi le prix parce que Jimmy, j'ai voulu noter
5 euros par mois justement. Oui, en abonnement. Ça. Et combien on a d'histoires? C'est une histoire par semaine que vous proposez, une histoire par mois?
Oui, il y a un nouvel audio toutes les semaines.
Est-ce que vous nous donnez des exemples, par exemple, de séquences, d'histoires qu'on pourra retrouver dedans? Je crois qu'il y a une séance de yoga qui dérape. Moi, j'ai entendu un petit extrait de dans des cabines d'un grand magasin. Enfin,
bien,
qu'est-ce qu'il y en aura? Non, mais il faut bien écouter quand on travaille, on prépare une émission.
Vous êtes abonné. Vous vous êtes abonné.
Effectivement, il y a plein de lieux différents. J'ai fait des aventures dans l'Orient Express. Des aventures dans un jet privé, des aventures dans un sauna.
Quels sont les retours des femmes? Parce que c'est quand même essentiellement elles, votre public. Finalement, qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce que vous avez comme retour?
C'est un retour extrêmement bienveillant. y a des personnes qui vont avoir des... comme je disais tout à l'heure, qui vont avoir l'impression de se réconcilier avec elles-mêmes. Et puis d'autres personnes qui disent je trouve que cette aventure de création est absolument incroyable. Elles me soutiennent dans cette création également.
Merci beaucoup Alexis Méros d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission pleine de sensualité, de douceur. Merci à vous aussi Catherine, merci à vous Jimmy. Voilà, sans rendez-vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain à la même heure à 15h.